France Culture avec philosophie Géraldine Mulman.
Je vous propose de redécouvrir quelques émissions que nous avons consacrées en 2023 à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les outils numériques nous épuisent-ils ? Nous sommes entourés de machines à communiquer, commandées par la voix ou par des claviers et des écrans qui exécutent des tâches en des temps records. Elles nous alertent sans arrêt, elles interrompent nos réunions et nos lectures, elles sonnent incessamment pour nous signaler un mail, un texto, un message sur l'un des réseaux sociaux que nous fréquentons, pour nous demander la photo d'un produit qu'un ami recherche, pour recevoir celle d'un autre ami qui veut nous montrer ce qu'il est en train de manger ou d'observer dans la rue. Et puis voilà une vidéo décapante qui nous arrive de la part d'un groupe de connaissances et qu'il nous faut immédiatement transférer à d'autres connaissances. Voilà aussi des dizaines de pubs, mais encore des annonces très intéressantes de colloques ou de manifestations diverses. Parfois, nous ne savons même plus ce que nous étions en train de faire avant que le portable n'ait sonné. Parfois, nous ne savons même plus pourquoi nous avons pris en main notre portable, tant il nous a demandé de choses depuis que nous l'avons pris en main. L'être humain est-il capable de recevoir autant d'informations en si peu de temps, de correspondre avec autant de personnes, d'envoyer autant d'articles et d'émoticônes, de documents sérieux et de blagues toute la journée, et pour certains d'entre nous, une grande partie de la nuit ? Cette hyperstimulation constante n'est-elle pas dangereuse pour la santé de nos capacités cognitives, de notre faculté d'attention et de notre vie émotionnelle ? Et au fond, ne sommes-nous pas nombreux à être en réalité proches de l'épuisement, que nous l'admettions ou non ? Voilà donc notre sujet du jour, notre attention soumise à l'hyperstimulation numérique, philosophie d'un mode de vie. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir le philosophe Yves Citon, professeur de littérature et de médias à l'Université Paris 8. Vous travaillez sur la question de l'attention. Je citerai votre ouvrage « Pour une écologie de l'attention » aux éditions du Seuil en 2014, ainsi qu'un très joli ouvrage paru en janvier 2023 aux Presses du Réel que vous avez co-dirigé « Angle mort du numérique ». Un glossaire critique et amoureux, beau programme. Et bienvenue aussi au docteur Servane Mouton. Vous êtes neurologue à Neuville-sur-Saône. Vous vous êtes penché sur cette question de l'attention hyperstimulée. Peut-être la question de nos burn-out en perspective. Vous avez coordonné aux éditions L'Apogée un ouvrage intitulé « Humanité numérique, les liaisons dangereuses ».
Vous avez le circuit de récompense. Et le circuit de récompense, lui, va sans arrêt tirer l'attention vers ce qui peut générer une impression de plaisir. Puis vous avez un autre réseau qui, lui, va orienter votre attention en fonction de ce que vous fixez à faire, ce que vous donnez à faire comme objectif. C'est lui qui va vous concentrer. Et c'est lui qui est complètement paumé quand vous fixez à faire plusieurs choses à la fois. Si vous êtes au clair sur ce que vous cherchez à faire, à chaque instant, je sais exactement ce que je dois faire, faire ce talk, je vais être bien concentré. C'est ce circuit qui va dominer. Au contraire, si c'est le circuit de récompense, par exemple, qui domine, là, problème, je vais me retrouver assez vite comme un petit garçon dans un grand magasin avec plein de bonbons. Et le problème, c'est quand le magasin de bonbons est infini et que tous les bonbons sont gratuits. Et ça, c'est ce qui se passe de plus en plus avec tous nos petits téléphones, Internet, etc., qui vont nous bombarder sans arrêt de petits bonbons hyper efficaces pour stimuler le circuit de récompense. Et là, le réflexe, c'est que mon circuit de récompense, il va me pousser à fourrer un maximum de bonbons dans ma bouche. On est dans une gloutonnerie attentionnelle.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
Vous venez d'entendre Jean-Pierre Lachaud. En mai 2007, lors d'une conférence, Jean-Pierre Lachaud est directeur de recherche INSERM au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Et donc, il parle de notre mode de vie, de notre époque, avec du numérique partout, comme d'une gloutonnerie attentionnel. Qu'est-ce que vous en pensez, Servane Mouton, vous qui êtes neurologue ? Est-ce que c'est une jolie formule pour décrire des choses que vous voyez souvent ?
C'est une formule qui marque, en tout cas. Il me semble que sur le plan de la captation de l'attention, nous en parlions un petit peu avec Yves Citon avant l'émission, les outils numériques ont finalement poussé un cran bien plus loin, tout ce qui était déjà en marche depuis des dizaines, même peut-être un ou deux siècles, autour de la captation de l'attention et de la marchandisation finalement de l'être humain. Et aujourd'hui, ce qui est devenu une valeur marchande, c'est l'attention que nous allons porter au contenu de ces outils.
Alors, on va parler un tout petit peu après du fait que notre ascension, non seulement est stimulée, mais elle est devenue un vrai produit pour un marché. On va en parler en détail, c'est d'ailleurs la spécialité d'Yves Citon. On va même faire l'historique de ce problème. D'accord. Mais là, avec vous, j'aimerais qu'on parle de notre état. Dans quel état sommes-nous? Et notamment, est-ce qu'il n'y a pas, avant de critiquer, besoin de rappeler que l'espèce humaine est capable a des capacités adaptatrices extraordinaires, elle est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Donc a priori, c'est précieux, c'est génial. Où est le problème à stimuler tout cela?
En fait, on est capable de faire plusieurs choses en même temps, oui et non. C'est-à-dire qu'on est capable de porter notre attention vraiment consciente sur une tâche,
oui,
de façon volontaire. Et si on peut gérer plusieurs choses en même temps, c'est que les autres tâches, elles, ont été automatisées. On peut conduire en pensant à ce qu'on va faire le soir, parce qu'on a automatisé la conduite, voilà, par exemple.
On dit parfois que les femmes sont un peu plus douées pour penser à plusieurs choses, parce qu'elles ont plusieurs vies domestiques, et parfois qui leur prennent la tête plus que les garçons, mais ça va peut-être changer, tout ça.
Et une tâche sur le plan, qui est exigeante sur le plan attentionnel et qui nécessite cette attention dirigée et soutenue, ne pourra se faire que toute seule, au détriment des autres. Donc si on a l'impression de gérer plusieurs choses en même temps, c'est qu'en réalité, notre attention passe d'une chose à l'autre, en permanence.
Quelles sont les zones cérébrales de l'attention? Elles sont antérieures, ça je vous ai lu, c'est pour ça que je vous demande. Vous pouvez préciser un petit peu, sur le plan même anatomique, les zones de l'attention dans le cerveau?
Ce sont des circuits qui sont assez complexes, mais les structures qui sont un peu clés sont en effet les régions les plus antérieures du cerveau, les régions frontales et préfrontales. Et ce sont aussi celles qui sont les dernières à maturer, on va dire. Le cerveau humain continue sa maturation jusqu'à l'âge de 25 ans environ.
Oui.
Et ce sont ces zones qui maturent en dernier. Ce qui explique aussi pourquoi les plus jeunes sont les plus vulnérables à la captation de l'attention et sont d'autant plus à protéger dans cette période de maturation du cerveau où leur capacité attentionnelle se met en place et où des sursollicitations peuvent perturber la maturation optimale et avoir des conséquences après qui peuvent être durables.
La gloutonnerie attentionnelle, pour reprendre notre mot du début, est bien plus dommageable sur les jeunes que sur les adultes. Et c'est quand l'âge adulte, c'est 25 ans, jusqu'à 25 ans, fabrique nos zones du cerveau dédiées à l'attention.
Les réseaux se construisent et se consolident. Alors après, ça reste, la plasticité persiste chez l'adulte, mais elle est... elle est plus intense jusqu'à 25 ans et cette maturation se poursuit jusqu'à 25 ans.
Alors quand on fait plein de choses en même temps, est-ce qu'on se fatigue plus que quand on fait une chose profondément?
On est moins efficace, en tout cas. Et probablement, si on a à cœur de mener de front de multiples tâches de façon simultanée, vu que c'est quasiment mission impossible dans un même laps de temps, il peut y avoir un épuisement et cette sensation de perdre pied et de ne plus y arriver, en tout cas.
Je vous demande ça parce qu'il y a une penseuse, je crois aussi qu'elle est médecin, Catherine Hales, dans un livre de 2016, « Lire et penser en milieu numérique », a parlé d'hyperattention lorsqu'on est sans arrêt stimulé pour faire beaucoup de choses. Donc, en hyper, on entend quand même une sollicitation de ressources, quoi. Et elle opposait cela à l'hyperfocalisation. Et là, on entend bien, c'est fatigant aussi sans doute, mais on se focalise sur une chose en profondeur. Est-ce que vous, comme neurologue, peut-être c'est pas vos mots, hein, je veux dire, vous prenez les concepts qui vous arrangent, mais je trouve que ça permet de réfléchir. Vous distingueriez vous aussi, sur le plan de notre état psychique et neurologique, l'hyperattention de l'hyperfocalisation?
En fait, on utilise ce terme un peu générique d'attention, mais qui désigne plusieurs choses. Il y a une attention qu'on peut dire exogène, qui vient de l'extérieur, qui est un petit peu sollicitée de façon automatique. Et les outils numériques, pour ça, sont des médias très puissants. Chez le petit enfant, des mouvements rapides, des couleurs suffisent à capter son attention de façon extrêmement intense. On a l'impression qu'il est concentré, mais il n'est pas concentré, il est happé. Oui. Par l'écran. Après, en grandissant, il faudra des mécanismes un petit peu plus élaborés pour réussir à la capter. On pourra en reparler, mais ce sera de l'attention qu'on dit exogène, en tout cas. Et ça, des multiples stimulations externes peuvent être arriver à saturation. On dit que l'enfant ou nous sommes en surcharge cognitive. Il y a une surstimulation, en effet. Et dans l'autre versant, ce qu'on appelle l'attention endogène ou volontaire ou dirigée, c'est notre concentration, en réalité.
Et ça, c'est plus sain ?
C'est différent. On a besoin de cette attention automatique exogène. Elle nous a permis de nous sortir de multiples situations, un prédateur qui venait nous attaquer, etc.
Mais capacité adaptative.
De détecter des choses qui pouvaient être intéressantes dans notre environnement, des informations intéressantes, quelqu'un qui arrive et qu'on a envie de voir. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être utiles. Aujourd'hui, on a moins de prédateurs quand même, donc on en a moins besoin, mais on est configuré comme ça. Il a fallu des milliers d'années pour que le cerveau fonctionne comme ça. Mais en termes d'efficacité de travail, bah, là, on va avoir besoin de notre concentration. Donc, c'est un équilibre entre les deux. Le problème, c'est quand il y a cette surstimulation sans filtre de cette attention exogène qui met à mal en fait nos capacités de concentration.
Parce qu'en fait, c'est moins stable et finalement, nous n'apprenons plus à avoir une attention stable.
Si on parle des enfants,
mais même des adultes. Je me pose beaucoup de questions moi sur les adultes, pas seulement sur les enfants.
Si, par exemple, on est concentré sur quelque chose, un adulte, on est concentré sur quelque chose et qu'on est interrompu par des notifications, à partir du moment où cette interruption de tâche dépasse 15 secondes, on va avoir plus de difficultés à se concentrer, à se reconcentrer.
Parce qu'on n'a plus l'habitude ?
Non, c'est le cerveau.
C'est naturel, ce que vous dites.
Ouais. Donc si on est en train de travailler sur un dossier et qu'on laisse le téléphone à côté nous perturber... À chaque fois qu'on est distrait, il va falloir se reconcentrer. Si ça excède 15 secondes, ce sera d'autant plus difficile de se reconcentrer. Et donc, finalement, avec ce type de fonctionnement, on va être moins efficace, on va faire plus d'erreurs et on va se fatiguer plus pour faire la même chose.
Ça, c'est quand même... Enfin, je trouve que ce qu'elle vient de dire là, Servane Mouton, c'est vraiment notre vie de bureau, voire notre vie de maison, où on commence une discussion, on regarde le téléphone, on y retourne, on est en train de lire un bouquin, on est obligé de relire le paragraphe, on y retourne encore, et puis je trouve quand même une sensation de fatigue liée aussi à une irritation. Yves Citon, vous travaillez là-dessus depuis longtemps. Quand avez-vous compris que nous n'allions pas très bien ?
Alors, ça va dépendre de la définition du « nous ». Et là, merci pour votre question, parce que justement, d'abord, vous la cadrez par le « nous ». Et d'habitude, il me semble qu'on rentre souvent là-dedans par le « je ». Je suis fatigué, j'ai trop de choses, etc. etc. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le livre de Servane Mouton, je le recommande. Et c'est très important de comprendre ce qui se passe dans notre cerveau, dans le rapport entre un cerveau et un écran ou quelque chose d'autre. En même temps, c'est très important de resituer ça dans des contextes sociaux, dans des structures économiques, etc. Et donc, le « nous » du départ, c'était de réfléchir à l'économie de l'attention en tant justement que notre réaction personnelle ou individuelle face à telle image, tel son, telle chose qui nous stimule, elle résulte de structures qui font que certaines personnes ou certaines institutions ou certaines organisations ont intérêt à faire passer, à diriger ceci ou cela du côté de nos écrans, de nos bureaux, de nos fenêtres, etc.
Je vous promets, on va parler de ce marché, de ce qui s'est passé, de l'évolution du capitalisme. Vous êtes un grand spécialiste de tout cela.
Oui, mais c'est une toute petite partie de la chose. C'est une partie importante.
J'insiste, je trouve qu'on est un peu dans le déni, si vous voulez, parfois, de l'état dans lequel nous sommes. Et par exemple, vous mettez de nouveaux concepts là-dessus, ces derniers temps. J'ai l'impression qu'au lieu de parler d'attention exogène et endogène, comme vient de le faire Madame Servane Mouton, vous réhabilitez le concept de curiosité.
Heureusement qu'on a la télévision, parce que j'ai amené plein de livres sur la curiosité, Curiosity Studies, etc. Et en anglais, c'est vraiment une mode. Là, je me suis aperçu que depuis à peu près 2017-2018, il y a plein de choses. Les études de la curiosité explosent dans le monde anglophone.
Juste pour que je comprenne, ça vient de nous, c'est endogène, alors que l'attention, ce serait un mot qui disent plus spontanément l'exogène ?
Moi, merci, je suis littéraire et donc je pars du principe que les mots, on les utilise tout le temps, que d'habitude on les subit parce qu'on n'a pas justement le temps, la disponibilité, l'attention pour vraiment y réfléchir. Et quand on y réfléchit, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une définition d'un mot, que chaque fois on la rausculte, ce mot, on le rausculte. Donc, je vais reprendre exogène, endogène, parce que c'était particulièrement clair dans ce que Servane Mouton nous a dit. Donc, l'attention exogène, c'est un stimulus extérieur, une explosion, une sirène qui attire mon attention et je ne peux pas vraiment y résister. Ça s'appelle une saillance. Donc ça, c'est exogène. Et on a besoin, s'il y a un mammouth, s'il y a un voleur, s'il y a quelque chose qui nous agresse, on a besoin de ça. Endogène, ça vient de moi.
Oui.
Mais ce qui vient de moi, ça peut être de deux types. Moi, je suis vieux, mes neurones dysfonctionnent et je perds plein de choses. Donc hier, j'ai perdu ma clé USB et j'ai passé 10 minutes à essayer de tâtonner pour retrouver ma clé USB. C'était endogène parce que c'est moi qui ai besoin de scanner mon environnement pour retrouver ma clé USB et je ne l'ai pas retrouvée. La curiosité, ça serait différent. Ça serait de dire, je ne sais pas ce que je cherche. Je sais, c'est pas la clé USB. La clé USB, je la connaissais, je la reconnais, etc. Mais la curiosité, ça serait endogène. J'ai envie de connaître quelque chose que je connais pas. Et quand elle est dans sa définition la plus ouverte, j'ai envie de connaître quelque chose qui ne rentre pas dans mes catégories préexistantes. Et ça serait, à mon avis, une belle définition de la curiosité qui peut être de nouveau variable. Alors pourquoi c'est intéressant? Justement parce qu'on peut parler en gros des mêmes questions du point de vue de l'attention et du point de vue de la curiosité, c'est des éclairages différents. C'est deux vocabulaires qui présentent souvent les mêmes réalités à partir d'éclairages différents, et en particulier la curiosité. Ça, parce qu'on part du principe que ça vient de moi, on dit les enfants sont curieux, donc après il faudrait juste organiser leur curiosité, mais ça vient d'eux, c'est un schéma assez différent de l'attention stimulée. Vous parlez à juste titre d'hyperstimulation de l'attention, ça veut dire qu'on est là pour recevoir des stimulations, et si on dit curiosité, on est bombardé de stimulations, et ça nous fatigue, et ça nous épuise, et elles arrivent beaucoup trop vite, donc on a plein de choses, on a les 15 secondes où il faut se remettre à la tâche antérieure, donc tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, à mon avis, c'est super important. Demandons-nous aussi, pas du tout contre, mais aussi, quelle est la curiosité qui fait
notre mouvement propre,
qui fait qu'on regarde le téléphone, parce que personne nous oblige d'avoir le téléphone là, et s'il est là, Moi, j'ai mon téléphone, je ne regarde jamais mon téléphone, je lis des trucs, etc. Alors, j'ai des privilèges, parce que, justement, je suis dans une situation sociale, on revient à l'économie, moi, je suis professeur d'université, j'ai certains privilèges qui fait que, au moins, en principe, je pourrais lire un livre de 300 pages. Ça devient de plus en plus difficile, comme vous le dites, et je suis aussi crevé que vous, aussi épuisé que vous, presque, on peut faire un concours, que j'ai plein de mails qui me viennent, avec des fichiers Excel, avec des rapports à remplir, etc., etc. Donc, ça dépend de la position sociale qu'on a. Si on peut ignorer son téléphone, si on est un chômeur qui cherche du boulot, et ben son téléphone, si on l'ignore trop longtemps...
Un écrivain qui est pris dans son bouquin et qui ne regarde son téléphone que 2-3 fois par jour, parce qu'il y a une curiosité beaucoup plus profonde, fatigante aussi, mais dans un autre genre, qui le stimule intérieurement toute la journée.
Tout à fait. Ça, c'est l'endogène dont parlait.
Ça, c'est l'endogène. Alors là, moi, j'ai plein de questions. Parce que cette question, il est vrai, vous avez touché un point, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire, cette différence qu'il y aurait entre une curiosité qui vient de nous et une attention en permanence stimulée par l'extérieur. Première question à tous les deux. Est-ce que la curiosité qui vient de nous a besoin d'ennui? C'est-à-dire, a précisément besoin pour se déployer, pour se connaître, de ne pas être soumise en permanence à des hyperstimulations. Est-ce que vous n'êtes pas en train de réhabiliter ce calme, parfois un peu angoissant, qu'on a longtemps appelé l'ennui et qui est si peu valorisé dans nos sociétés? Yves Citon. Et puis après, vous nous répondrez, la neurologue, sur la question de l'ennui, je me réjouis.
Alors, je crois que tous ces mots, de nouveau, moi je reviens toujours à mon statut de littéraire, tous ces mots, on peut les étendre, les former dans plein de directions différentes. Donc, un mot comme la curiosité, j'ai essayé d'en donner une définition, mais qui est tout à fait discutable. On passe sur le mot attention, qui est encore plus complexe. Le mot ennui, moi je trouve très ennuyeux de remplir des fichiers Excel.
Je vois ce que vous
Et pourtant,
dire.
C'est pas de l'ennui ou qu'est-ce que je veux faire, je sais pas quoi faire, c'est pas l'ennui de Godard, je sais pas quoi faire, etc. Donc, même les mots d'ennui, il faudrait... Maintenant, le fait de n'avoir rien à faire et se plaindre parce qu'on n'a rien à faire et que la vie est vraiment trop plate et qu'il n'y a pas assez de stimulation, si c'est ça que vous dites, l'ennui comme absence de stimulation et donc on se regarde le nombril et puis on se dit que c'est pas brillant, ça, il me semble que ça arrive rarement. De nouveau, qui ? Peut-être que ça arrive rarement pour nous qui sommes à France Culture, parce qu'on vit dans un monde de luxe, de richesse, de surstimulation. Peut-être que, je sais pas, quand on est dans tel village africain, peut-être que lorsqu'on est peut-être dans une banlieue où il se passe pas grand-chose, et voilà, peut-être que les rapports à l'ennui sont très différents.
Mais peut-être que c'est le début de notre créativité. Vous connaissiez peut-être l'écrivain Pierre Paché, qui nous a quittés il y a quelques années. Il aimait raconter cette histoire. Quand il était petit, il disait souvent à son père « Oh, je m'ennuie, j'ai rien à faire ». Et son père lui disait « Tu n'as qu'à avoir une vie intérieure ». Est-ce que pour avoir une vie intérieure pleine de curiosité, il ne faut pas en effet, docteur Servan-Mouton, savoir s'ennuyer un peu ?
Ma réponse sera un peu mixte entre la neurologie, puisque je pense en tant que juste personne non médicale et non scientifique.
Oui, bien sûr, je vous chambrerai un peu.
Mais néanmoins, je peux faire un pont parce qu'il y a un réseau dans le cerveau qui s'appelle le réseau neuronal par défaut.
Oui.
Qui, alors je ne sais plus, donc c'est pas si vieux que ça, ça a mis en évidence, c'est avec l'imagerie fonctionnelle, on s'est rendu compte qu'il y avait dans le cerveau un réseau, le réseau neuronal, qu'on a appelé le réseau neuronal par défaut, qui s'active quand le cerveau n'est plus stimulé. On s'est rendu compte, c'était des expériences, je crois, sur les aires du langage, sur le langage, et que lorsqu'on demandait au sujet étudié d'arrêter de faire la tâche, les aires du langage s'éteignaient, entre guillemets,
oui.
Mais d'autres aires s'allumaient. Et en fait, en étudiant les imageries de tous ces sujets, on s'est rendu compte que finalement, c'était les mêmes aires. Donc, voilà, ça a été reproduit dans différentes tâches. C'est le réseau qui se met un peu en activité quand les stimulations s'éteignent. Voilà.
Mais donc, anatomiquement,
anatomiquement,
on voit quand quelqu'un est en train de mettre en œuvre autre chose, une curiosité libre, un peu flottante, mais qui pourrait devenir profonde.
En fait, du coup, il y a beaucoup de recherches, il n'y a pas de réponse, en fait, mais il y a de la recherche autour de ce réseau. Certains avancent qu'en effet, il serait peut-être nécessaire à la restauration du cerveau, à une forme de créativité et aux rêveries, et que ce serait un état nécessaire pour un bon fonctionnement du cerveau qui nous amènerait à explorer justement ces rêveries et cette créativité.
Bien, alors tout ça, vraiment, déjà, je trouve, à poser bien la question de l'état dans lequel nous sommes. Alors maintenant, nous allons parler du système dans lequel nous vivons. Du système qui, justement, au contraire, favorise une hyperstimulation numérique constante. Évidemment, les réseaux sociaux l'ont favorisé. Et l'une des caractéristiques de notre époque est que nous ne sommes pas seulement stimulés par des infos qui nous viennent de partout. Ces infos, nous sommes aussi d'être à notre tour producteur d'infos. Donc il y a une sorte de « il faut recevoir plein d'informations, mais il faut en donner aussi ». Écoutez, après tout, c'est une manière de décrire ce qui peut se passer dans le système, car c'est un système Instagram. Écoutez la série Dopamine sur Arte, qui a été proposée en 2019 par Léo Favier. Écoutez ce passage qui parle de la dopamine, qui est une hormone du cerveau, mais ce qui peut se passer sur Instagram.
Instagram est un réseau social permettant de partager des photos et des vidéos. L'application propose un grand nombre de filtres qui transforment n'importe quelle photo banale en cliché super esthétique qui va mettre en valeur ton quotidien. Lorsqu'on veut regarder le contenu d'un utilisateur, on dit qu'on s'abonne. Et les abonnés sont des followers qui suivent un tel ou une telle ou... L'objectif d'Instagram, c'est que tu passes le plus de temps possible sur l'appli, que tu t'abonnes à un maximum de comptes pour pouvoir ainsi récolter un maximum de données personnelles et te proposer de la publicité encore plus ciblée. Tout autour de toi, il y a des milliers de choses à photographier. C'est irrésistible et tu ne peux pas te retenir, car l'appli est en fait conçue pour activer un besoin bien plus profond, la validation sociale. Cette validation sociale est un besoin, dit... fondamentale. Car l'être humain est un animal social en constante quête d'approbation. Pour ton cerveau, Instagram est considéré comme l'outil d'approbation sociale ultime, te permettant en quelques secondes de savoir ce que tu vaux. Les influenceurs, ce sont des utilisateurs suivis et regardés par tous. Il y a des super influenceurs qui sont des stars dans la vraie vie, avec des centaines de millions de followers, mais il y a aussi ceux que l'on appelle les micro-influenceurs, avec moins de 10 000 followers. Les influenceurs sont partout et ils vont devenir la tête de pont des marques pour te gaver de publicité. Car pour ton cerveau, il est très difficile de faire la différence entre le contenu naturel de tes amis, engagé dans un processus d'autopromotion constant, et le contenu publicitaire des marques qui intègrent leurs produits aux photos d'influenceurs qui vont user automatiquement de leur rôle de modèle prescripteur. Tout ça, créant dans ta tête le désir de posséder ce produit, considéré inconsciemment comme le seul moyen de faire partie de ton groupe social.
Nous parlons ce matin de notre hyperstimulation numérique. Notre attention est sursollicitée. C'est un mode de vie dont nous essayons d'établir la philosophie en ce moment avec Yves Citon ce matin et le docteur Servane Mouton. Nous venons d'entendre une description assez mignonne, avec un ton enjoué, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur Instagram. C'était une série d'Arte qui s'intitulait La Dopamine. La Dopamine, vous ne perdez rien pour attendre, on va y revenir. Mais je voudrais tout de suite que Yves Citon nous explique ce qui se passe dans cette économie ou sur un réseau social. Vous êtes chez vous, vous lancez vos photos, vos informations, vous maîtrisez, semble-t-il, et à un moment donné, vous êtes sursollicité pour aller voir les réseaux des autres, on est sans arrêt, en quelque sorte, à la fois consommateur et producteur d'informations.
Tout à fait. Là, quand vous dites « vous », je dois juste faire une note en bas de page. Moi, je suis sur aucun de ces réseaux sociaux. Voilà. Donc moi, je parle de ça comme un martien qui regarde les humains, qui font des choses. Mais il y a toute une partie expérientielle qui m'échappe. Et donc, je vais dire des choses, mais qui sont peut-être totalement fausses, parce que je n'ai pas cette expérience directe. Mais donc, si on replace ça dans des transformations anthropologiques de long terme, disons. On a eu des médias comme l'imprimé qui a fait un effet extraordinaire sur les sociétés humaines, avec, en plus, c'était Renaissance, avec 18, 19e siècle, les quotidiens, qui font qu'on a plein de nouvelles du monde qui nous viennent. Donc les sollicitations, et il y avait des réactions tout à fait paniquées en disant « avoir un journal tous les jours, c'est trop, ça fait exploser le cerveau, c'est pas possible ». Ensuite, on a eu le télégramme, le téléphone, la radio, la télévision, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 30 dernières années? On a d'abord eu quelque chose de génial qui s'appelle Internet, qu'il ne faut jamais oublier, qui a permis de transformer complètement le fonctionnement des médias. Mmh. Où les médias, il y avait quelques personnes qui faisaient du broadcasting, comme France Culture, qui envoyaient des choses sur toute la France. Et quand c'est France Culture, c'est merveilleux, mais des fois c'est moins merveilleux. Mais ça venait du studio ici, qui diffuse sur toute la France. L'Internet, ça a voulu dire, non seulement on reçoit des choses, mais on peut poster des choses sur Internet. On peut mettre des choses.
On
est soi-même. Donc là, il y a quelque chose qui s'est passé. On est tous un peu devenus journalistes. On est tous un peu devenus hommes et femmes de médias parce qu'on peut renvoyer des choses et pas seulement recevoir. Maintenant, il y a vraiment eu deux périodes. Il y a Internet des années 90 et il y a les plateformes après les années 2000. Mmh. Et il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est qu'au début d'Internet, on pouvait poster du texte ou des photos qui étaient déjà faites. Après, on parle beaucoup d'écran aujourd'hui. Et dans le livre aussi de Servane Mouton, on parle beaucoup d'écran. Moi, je proposerais de parler de cam-écran. C'est pas moi qui invente le terme. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alice Lenay à Paris 8 aussi qui a proposé ceci. Cam-écran, c'est quoi? C'est à la fois des écrans, on regarde des choses, et des caméras. Non seulement on peut soi-même faire des films, quand il y a une brutalité policière dans la rue, je peux filmer ça.
Je suis photoreporter.
Voilà, et parce que je suis journaliste, je peux le mettre. Donc là, il y a une multiplication des stimulations. Tout à fait. Ouais. Donc là, vous parlez d'hyperstimulation, on est soi-même émetteur et pas seulement récepteur. Tout le monde devient émetteur, donc c'est comme si on avait des centaines, des millions, des milliards de médias qui nous envoient des choses, et d'où le côté un petit peu surchauffe. Mais cam écran, ça veut surtout dire quelque chose, à mon avis, plus précis, qui est que quand je regarde mon téléphone portable, le téléphone portable me regarde, m'espionne, il me moucharde. Et du point de vue de l'économie de l'attention, c'est ça la vraie nouveauté, de mon point de vue. C'est pas qu'on ait des images qui bougent, ça arrive avec le cinéma. C'est pas qu'on puisse téléphoner à tout le monde, que tout le monde nous appelle, ça existait avec la télévision. La nouveauté, c'est que j'ai tous ces médias qui sont rassemblés dans le livre « L'angle mort du numérique ubiquitaire », on appelle ça des métamédias. La cam-écran, le téléphone portable, c'est un métamédia. Est-ce que ça a trois propriétés? D'une part, ça simule tous les autres médias existants. Je peux faire ce que je faisais avec un téléphone, je peux imprimer un texte, je peux faire plein de choses. D'autre part, ça condense tous ces médias dans un objet.
Oui.
Et troisièmement, ça moucharde mon attention. Et donc, pour moi, la vraie nouveauté de notre économie de l'attention, c'est que on est perpétuellement en train de se faire moucharder pour que celui qui émet des messages puisse savoir comment et quand on regarde son message. Et ça instaure une accélération, une diffusion d'informations qui, à mon avis, est une des causes, c'est pas la seule, c'est une des causes, si on a le temps après je parlerai d'autre chose, mais une des causes techniques de cette impression de surchauffe, d'hyperstimulation qu'on n'arrive pas à suivre, ni vous ni moi.
Alors, il y a des gens qui, dès les années 1990, nous avaient prévenus, en particulier Georges Franck, qui disaient, mais finalement, l'attention, évidemment que ça a toujours intéressé les entreprises et le capitalisme, parce que c'est toujours bien de pouvoir chiffrer combien de gens vont à un spectacle, combien de gens regardent une émission de télé, écoutent une émission de radio, etc. Absolument. Évidemment, ça fait faire des prédictions, etc. Mais il y a un moment donné où on a une manière de connaître, y compris qualitativement, notre attention à certaines choses, qui fait que l'attention n'est pas seulement devenue un outil, mais est devenue le produit même échangé, une vraie valeur. Ces infos sur l'attention des gens peuvent se vendre à d'autres entreprises, etc. Écoutez ce que dit un autre documentaire passionnant de Jeff Orlowski, qu'on peut trouver sur Netflix, un documentaire de 2020 qui s'intitule « Derrière nos écrans de fumée ». Écoutez ce qui est dit là à propos du fait que l'attention est devenue le produit.
Durant les 50 premières années, la Silicon Valley vendait des ordinateurs, des logiciels. C'était un business, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais depuis environ 10 ans, les grosses entreprises de la Silicon Valley se sont mises à vendre leurs utilisateurs.
Le fait est qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne payent plus pour les produits qu'ils utilisent. Ce sont les annonceurs qui payent pour ces produits. Ce sont donc eux les vrais clients. Et nous qui sommes vendus.
On dit souvent, si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Beaucoup de gens se disent, Google est un simple moteur de recherche. Et Facebook est un endroit pour savoir ce que font mes amis et voir leurs photos. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils se battent pour capter notre attention.
Des sites comme Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube ont pour unique but de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son écran. Ils veulent accaparer le maximum de temps et d'attention de chaque membre. Combien de temps je peux vous prendre? Combien de votre vie êtes-vous prêt à nous donner?
Quand l'utilisateur ne paye rien, c'est qu'il est lui-même le produit. C'est une formule souvent utilisée. Certains disent que c'est ce qui fait qu'on est entré dans un capitalisme de la surveillance où l'attention que nous portons aux choses est devenue le produit qu'on vend à d'autres entreprises, etc., pour continuer à nous appâter. Il y a quelque chose que je comprends pas très bien, Yves Citon. En réalité, ça a toujours été l'idée du capitalisme, de nous exciter, de nous stimuler. En 1971, bien avant que tout ce dont nous parlons n'existe, Herbert Simon, qui était un économiste et sociologue, a parlé, lui, déjà d'économie de l'attention. Et un tout petit peu plus tard, il y a un penseur très important qui s'appelle Jonathan Crary, dont vous allez me parler parce que je voudrais qu'on ait plus d'éléments, qui disait que le capitalisme est fondé sur cette idée de nous hyperstimuler. Et en 2013, il a même écrit un livre qui s'appelle 24/7, Le capitalisme à l'assaut du sommeil. Je vous écoute, Yves Simon. Yves Citon.
Donc, il y a plusieurs fils à suivre en même temps et je vais essayer d'être bref. D'une part, il y a l'idée que la mise en question et le sentiment de surchauffe attentionnelle, Jonathan Crary le documente très bien à la fin du 19e siècle, donc 1880.
Oui, c'est vieux.
Il nous dit on vit une crise permanente de l'attention depuis 1880. Après, on pourrait remonter plus haut. Mais donc ça, c'est le sentiment dont on a parlé jusqu'à présent, qu'il y a trop de choses. Et à mon avis, on peut le voir à la Renaissance, on voit des auteurs de la Renaissance qui disent, avec tous ces imprimés, comment on arrive à lire tous ces livres? C'est juste pas possible. Donc ça, on pourrait se dire que ça, c'est très vieux. Il y a rien de nouveau. Maintenant, il y a quelque chose, je vais remonter un peu loin, 1830. Il s'est passé quelque chose en 1830, entre New York, un peu Londres et Paris. Des gens qui vendaient des quotidiens.
Oui.
Ils ont eu l'idée de se dire, ça nous coûte 1 euro de l'époque de fabriquer ce quotidien. Et tout le monde le vend à 1,10€. Nous, on va le vendre à 50 centimes. Donc, on aura le même produit, moitié prix. Les gens vont se ruer sur notre truc. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des placards d'affichage, de réclame, pour que des annonceurs puissent faire. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a quelque chose qui, pour le coup, que je sache, n'est pas du tout éternel, n'était pas chez les Romains, qui est de vendre l'attention comme une marchandise. Et ce dont parlait votre extrait tout à l'heure, c'est justement le fait que ces plateformes contrairement à Internet, hein, quand j'ai dit tout à l'heure, il y avait l'époque Internet 90 et puis à l'époque des plateformes aujourd'hui, l'époque des plateformes, leur modèle économique, c'est la marchandisation de l'attention, comme vous l'avez très bien rappelé. Et donc, tout à l'heure, je parlais de dispositifs techniques.
Mais c'est une vieille affaire, ça que vous dites. C'est une vieille histoire. Vous parlez de 1830, de la penny press, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait aux États-Unis, la presse à un sou, qui a quand même révolutionné le journalisme moderne, en produisant le meilleur et le pire, sans doute. Mais aussi le meilleur, il faut le rappeler, on a eu de l'info, enfin. Est-ce que c'est pas une vieille histoire et on se focalise sur les 30 dernières années, est-ce qu'il y a eu un changement juste de degré ou un changement de nature, Yves Citon ?
Alors, moi je vais passer la parole à Servane, je vais dire que c'est le cam écran, hein, c'est Métamédia dont je parlais tout à l'heure, qui, dans la même logique économique, qui par ailleurs s'est mondialisé, donc il y a quand même eu des petits changements entre 1830 et aujourd'hui, mais c'est la même logique d'économie de l'attention qui dispose avec le cam écran d'un instrument inédit qui produit des transformations sociales absolument inédites, et de voir ce qui se passe entre ce cam écran et mon cerveau, ça c'est vraiment très intéressant, et c'est pour ça que les travaux de Servane sont centraux.
Servane Mouton, changement d'échelle ou franchement changement de monde ? En ce moment-là, vous avez des gens qui dorment plus, qui viennent vous voir. Quand Crary dit, je nourris ma question, si vous voulez bien, que le capitalisme est depuis l'origine à l'assaut du sommeil, quand on a des gens comme le penseur Armut Rosa qui nous dit qu'effectivement, nous dormons presque 2 heures de moins par nuit qu'au 19e siècle. Mais ça, c'est l'histoire du capitalisme, c'est l'histoire des sociétés modernes, c'est l'histoire de l'urbanisation. Il y a tellement de tentations, tellement de choses à faire, nos vies sont extrêmement remplies. Est-ce que c'est seulement cela ou il s'est passé autre chose en termes d'addiction au numérique, de rapport aux écrans ? Vous voyez, est-ce que c'est un prolongement ou est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui se passe en ce moment, depuis, disons, 20 ans ?
Il me semble que c'est un prolongement avec un énorme coup d'accélérateur. On a changé de dimension. Et quand j'entends parler du métavers qui serait dans les tablettes et peut-être à nos portes, on serait encore un cran au-dessus. Et ce n'est pas un cran avec plus un degré, c'est de l'ordre de l'exponentiel, vraiment. Et il y a quand même eu une révolution, il y a eu Internet, et puis après il y a eu les outils mobiles. Les smartphones, les tablettes, moins finalement, mais les smartphones ont vraiment amené cette diffusion d'informations et donc de publicité et d'économie de l'attention à tout endroit, à tout moment, et même à tout âge, parce que maintenant les enfants de moins de 2 ans sont exposés au téléphone portable et à Internet. Enfin, c'est des chiffres qui me paraissent fous, mais le temps...
C'est vrai qu'entre 2 et 5 ans, ils regardent une heure par jour.
Non, à 2 ans. À 2 ans, c'est une
avant
heure par jour.
Ah, c'est à 2 ans, c'est une heure par jour en ce moment.
Et après, jusqu'à...
En France,
oui. Et à 2 à 5 ans, c'est autour d'une heure et demie, 2 heures. Et ensuite, on passe à... pour les 6-11, c'est autour de 2 heures et demie. Les 11-15, c'est 3 heures et demie. Et puis après 15 ans, c'est au-delà de 5 heures par jour. D'écran récréatif, on ne parle pas d'écran pour les devoirs. Et ce sont des chiffres pré-Covid, donc ils sont forcément, très probablement en tout cas, sous-estiment la réalité.
Mais est-ce que le problème, c'est les écrans ou c'est ce qu'on y fait ? Parce que vous comprenez, écran, on peut voir, il y a les dessins animés, la télé, j'ai pas dit que c'était génial pour les enfants, mais c'est peut-être pas le même problème que celui des écrans qui nous stimulent assez tôt, je veux dire, soit par des messages, que les petits-enfants, ils comprennent assez vite qu'on reçoit des messages, que ça sonne. Est-ce que c'est le même problème ? Je veux dire, la vieille question de la télé, qui est une vieille question maintenant, Et la question des écrans modernes chez l'adolescent.
Il y a beaucoup d'angles, dans cette question, d'où le bouquin, qui était pour essayer de traiter un petit peu tout.
Ah, votre livre est extrêmement riche.
Le côté écran en lui-même pose des problèmes sur le côté vision. Alors, il participe, même s'il n'est pas la seule cause, à une épidémie mondiale de myopie, par exemple. La lumière bleue a un effet délétère sur la rétine. On ne connaît pas les effets à long terme d'une exposition régulière, répétée, même à une lumière bleue de faible intensité comme celle des écrans sur la rétine. Donc on ne sait pas ce que ça va donner chez les enfants qui sont exposés dès aujourd'hui, par exemple. Après, il y a tout ce qui est lié au fait que c'est une activité essentiellement sédentaire. La sédentarité est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc chez les enfants qui sont censés à peu près bouger tout le temps, un enfant naturellement reste quand même très peu assis.
Un ado devrait aussi.
Et un ado beaucoup. Aussi. On considère les recommandations sont pas très établies chez les adolescents, mais quand on se base sur les maladies cardiovasculaires, les sociétés savantes anglo-saxonnes partent d'une heure et demie de sédentarité par jour pour les adolescents. Bon, on a explosé les trucs. Alors, on dit, bon, ok, mais ça veut dire qu'ils sont en train de compromettre, finalement, leur santé cardiovasculaire à moyen et long terme. On parle d'AVC, d'infarctus du
myocarde. À la fois, c'est le même problème que les histoires de regarder la télé des heures qu'on avait il y a 30 ans. Et en même temps, c'est une nouvelle histoire parce que lumière bleue, parce que peut-être l'addiction n'est pas la même.
Et puis, parce que c'est accessible tout le temps. La télé, à part pour certains enfants qu'il avait dans la chambre, peut-être il y a 20-25% des enfants qu'il avait dans la chambre, malgré les recommandations qui étaient de ne pas le faire. Aujourd'hui, tous les ados ont leur téléphone portable,
ils quasiment 90%
l'ont dans leur poche et dans leur chambre. S'endorment avec, l'utilisent la nuit, enfin, et donc il y a aussi l'effet sur le sommeil, qui est un pilier de la santé. Je ne vous traiterai pas tous les effets délétères d'être chronique de sommeil, mais c'est cancer, maladie neurodégénérative, maladie cardiovasculaire, troubles attentionnels,
etc. C'est sympa de faire des émissions avec vous, sympa, vraiment, ça nous donne le moral.
Donc c'est un changement d'échelle, pour répondre à votre question.
Oui, c'est un changement, ouais.
Et donc ça, c'est le côté, à la fois outil en lui-même et les activités qui lui sont liées. Et puis après, il y a tout le problème des contenus qui renvoie en effet à la construction même, à l'éthique ou à l'absence d'éthique des plateformes aujourd'hui, qui est celle de cette captation et d'économie de l'attention, et qui fait que ce but de maintenir l'utilisateur en ligne le plus longtemps possible, etc., et qui est la source des profits, se fait sans aucune préoccupation de la santé de l'utilisateur. Et c'est ça qui paraît fou, en fait. Parce que les publicités qui vont être médiées n'ont aucun respect pour la santé. Les produits à haute teneur en sucre, sel et gras vont, pareil, favoriser
les maladies. On fera une autre émission sur la pub. Voilà. Mais là, je voudrais qu'on parle de l'addiction. Ce que vous évoquez là, c'est quand même une addiction, pas forcément à la pub. C'est le fait qu'on ne puisse pas se décoller de son écran. Alors, j'ai une question très simple. Qu'est-ce que c'est que cette drogue dure qui s'appelle la dopamine? Ou la sécrétons, c'est ça?
On la sécrétons, c'est une des hormones clés du système de récompense qu'évoquait Jean-Philippe Lachaud dans le petit extrait.
Voilà, j'aimerais qu'on y revienne un peu. Je voudrais que la neurologue nous explique comment ça marche. Plus on la stimule, plus elle a besoin d'être stimulée, ou bien elle reste, elle s'en va, il faut qu'on a envie de la restimuler, comme quand on est addictif à une substance extérieure. Quand on sent moins ses effets, on a envie d'y retourner. Comment ça fonctionne, je veux dire, notre rapport à la stimulation pour la récompense?
Ce système de récompense, il est très important. Il a suivi notre évolution. Il nous a permis de découvrir des choses. Grâce à cette sensation de plaisir que nous ressentons dans certaines circonstances, nous aurons envie d'y retourner. Et voilà, ça, c'est le base de notre fonctionnement. Nous fonctionnons un peu par ce système de recherche de plaisir. Donc, activer ce système de récompense, c'est un excellent moyen de nous attirer vers une activité. Et on va pas revenir sur le côté économie de l'attention, mais puisque le but, c'est de nous y maintenir, on va essayer d'agir là-dessus. Et le système de récompense a un petit peu grossièrement deux voies. Il y a le système de récompense à court terme qui va, quand il est stimulé, conduire à la libération d'une grosse quantité de dopamine et qui va nous faire courir après ces shoots de dopamine répétés. Les écrans fonctionnent comme ça, des notifications, des alertes, etc. Parce que la nouveauté est un excellent stimulant de ce système de récompense à court terme. Et puis, il y a le système de récompense à long terme. Par exemple, la perspective de la réussite à un concours en fin d'année qui va nous faire travailler tous les jours, mais pour un résultat tardif. Et celui-ci va, quand il est stimulé, libérer une petite quantité de dopamine. Voilà. Mais quand on stimule beaucoup le système de récompense à court terme, on observe que ce système de récompense à long terme, lui, a tendance à dégénérer d'une certaine façon. Mm-hmm. En tout cas, ces stimulations répétées du système de récompense à court terme renforcent le système de récompense à court terme au détriment du système de récompense à long terme. Donc, et on observe.
C'est terrible ce que vous dites.
Oui, mais c'est problématique.
C'est terrible, mais je voudrais surtout que la question, quand même, derrière, c'est ce qu'il y a un moment où on explose, quoi, dans toute cette histoire. Et écoutez à nouveau la série La Dopamine d'Arte qui pose cette question de quand c'est too much, disons-le en anglais, puisqu'à peu près tous les mots là dans notre affaire sont en anglais. La question du too much, c'est à propos de Tinder, donc la série d'Arte 2019 de Léo Favier. Écoutez.
19h, tu sors du boulot, tu prends ton bus, tu rentres chez toi. Y a rien à la télé, plus de batterie dans ton canard. Alors tu te sers un verre et tu lances Tinder. Trop moustachu, trop musclé, trop humide, trop équipé, trop sale, trop propre, trop intello, trop... Oh. Et là, t'as bugué, t'as pas swipé du bon côté. T'as pété les plombs et tu t'es demandé comment tu as pu en arriver là. T'inquiète pas, c'est normal.
T'es complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine.
La dopamine. Et il y a un moment où on craque, on pleure, c'est plus possible, je suis fatiguée. On avait un peu cette impression là dans l'extrait qu'on entendait. Il y a un moment où on n'en peut plus. Il y a des burn-out liés au numérique aujourd'hui, Servane Mouton.
Mais on revient à cette histoire d'amplification, je pense. Ça a été un accélérateur. Le numérique participe dans tous les domaines à cette grande accélération. Accélération de tout. Accélération des échanges, des flux d'informations, de la communication, du rythme de travail, du rythme de tous les rythmes. Mmh. Donc à un moment donné, on sature. Mais puisque ce système de récompense est activé malgré tout, on va quand même y revenir. J'entends extrêmement souvent j'aimerais vraiment pas retourner sur le réseau social, j'ai plus envie d'aller sur TikTok, mais
j'en peux plus.
Mais j'y retourne. Et tous les jours, je décide de pas y retourner, et pourtant j'y retourne. Mais c'est le principe de l'addiction. Alors on parle pas d'addiction aux réseaux sociaux, je le dis parce que sinon je vais me faire épingler. On parle d'addiction que pour les jeux vidéo en ligne.
D'accord.
Mais ce sont des mécanismes, on va dire, addictif-like ou similaires à l'addiction. Voilà, il y a discussion sur le plan théorique, mais. Donc il y a le cocaïnomane, plutôt l'héroïnomane plutôt, va avoir envie de décrocher, mais il va y revenir. C'est un parallèle un peu fort,
mais qui dit bien les choses.
Mais il y a toujours envie, on a envie de se détacher de quelque chose qui nous aliène en fait, quand on a conscience que cette chose nous aliène. Mais ça n'empêche que c'est très difficile. Les leviers sont activés.
Vous avez écrit en 2014 un livre qui s'appelle « Vers une écologie de l'attention ». Donc ça fait quand même presque 10 ans que ça vous occupe ce problème. Est-ce qu'une écologie, c'est-à-dire, si je vous comprends bien, un mode de vie plus sain autour de cette économie de l'attention est possible ? 10 ans après ce livre presque, vous y croyez encore à l'écologie de l'attention ? On peut agir là-dessus ?
Je crois que écologie, ça veut dire qu'on se soucie des milieux de vie, des milieux, des environnements, des milieux dans lesquels on vit ou ici dans lesquels on est attentif, et que il y a des écologies toxiques et puis il y a des écologies soutenables, et que l'enjeu, c'est qu'ici on est dans une écologie capitaliste. On n'a pas, enfin, vous avez employé le mot tout à l'heure, mais je crois que c'est vraiment central. Il y a les déterminants technologiques, il y a les réactions du cerveau, et puis il y a le milieu. Et la structuration du milieu par le capitalisme. Et là, peut-être j'ai envie de revenir sur cette histoire de gloutonnerie du début et d'addiction dont on parle ici. Quand on dit addiction, en général, on pense héroïnomane, c'est pas très très sympathique comme perspective de vie. On a parlé aussi du sucre. Et moi, je sais que mes parents, ils m'ont mis du sucre dans le biberon. Parce que voilà, donc moi, j'ai toujours bu beaucoup de sucre. Je suis pas
un
héroïnomane.
Ouais,
mais de fait, maintenant. Et j'ai un peu de diabète, donc quand je dois boire mon thé sans sucre, c'est juste nul. Enfin, c'est pas bon. Enfin, je sais pas pourquoi je boirais un truc sans sucre. Et il me semble que ça, c'est une meilleure image pour ce qui se passe. On parlait d'accélération aussi, indépendamment du numérique, etc. Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, le montage des images, des films, de la télévision auxquels on a été soumis, s'est grandement accéléré. On avait, je sais pas, c'était, vous savez peut-être mieux les chiffres que moi, mettons 7 secondes, c'est devenu 3 secondes entre changement de plan. Qu'est-ce qui se passe si on est né dans un milieu, dans une écologie, pardon, dans un milieu où on a l'habitude que les images changent toutes les 3 secondes.
Oui.
Quand on voit un plan fixe de 10 secondes, l'ennui, exactement ce que vous disiez, on s'ennuie, on commence à ronfler et tout, c'est pas possible. Il me semble que c'est ça, on a tous été habitués, comme moi j'ai été habitué au sucre, à des sollicitations qui changent très rapidement, assez saillances de toutes parts. Et si on est plongé dans un milieu sans saillance, alors on éprouve de l'ennui, ça ne fonctionne plus, on n'est plus adapté avec ce qu'on désire ou ce qu'il faudrait faire. Et là, il y a plein de réactions qui sont possibles. Et là, une chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui me semble importante là-dedans, et c'est une page de pub parce qu'il se trouve que c'est sur un autre livre qu'on a publié récemment qui s'appelle « L'addition médicamentée, la ritaline à l'école », c'est qu'en même temps, on a ces sursollicitations par les médias, par les téléphones, etc. Et puis, dont on peut dire que c'est un peu addictif. Et puis, pour résoudre les conséquences, pas seulement des téléphones, mais justement de ce capitalisme attentionnel, de cette habitude de sursollicitation, on a des situations scolaires où les enfants, dont on imagine qu'ils devraient rester assis pendant des heures pendant que le professeur enseigne, et vous parliez de sédentarité à cause du téléphone, mais c'est aussi l'école qui force les gens, qui force les enfants à rester assis, ils n'arrivent plus, ils ne tiennent plus en place. Et la solution qu'on a pour ceci, c'est de leur donner de la chimie, de leur donner de la ritaline. Alors vous savez mieux ce que c'est que moi, que la ritaline et ces produits-là. Et on a donc une crise attentionnelle qui à la fois est nourrie par des développements médiatiques, par des appareils, et qui est soignée par de la chimie, par de la pharmacologie, par ce que Walter Benjamin appelait des apparates, hein, des préparations qu'on se met dans le cerveau pour tolérer ce qui ressemble à de l'ennui parce qu'on n'a pas notre dose de sucre. Et c'est donc ce système du capitalisme attentionnel, Georg Frank parlait de capitalisme mental,
oui,
qui est dans une absurdité énorme qu'on vit tout le temps, qu'on prenne de la ritaline ou pas, quand nos enfants prennent de la ritaline ou pas. La France est assez préservée de ça pour le moment, par rapport au Brésil, par rapport aux États-Unis, mais c'est en train de monter. Et donc, méfions-nous de ceci, la solution à la crise attentionnelle par les préparations chimiques, c'est en train de monter en France avec 30 ans de retard.
Alors, c'est vrai que j'ai tendance à être un tout petit peu prudente, parce qu'en même temps, le progrès médical existe. Probablement que notre système social fabrique des troubles et des pathologies de l'attention, mais peut-être aussi tout simplement qu'on connaît mieux, indépendamment de ce conditionnement, des troubles de l'enfant. Je veux dire, peut-être que la ritaline, voilà, je vous demande, docteur Servane Mouton, si par ailleurs c'est peut-être pas inintéressant d'avoir découvert que y a des enfants qui vont pas bien et qui peuvent avoir une béquille à un moment donné. Il faut peut-être pas non plus jeter tout ça par la fenêtre en disant c'est le grand complot de l'industrie pharmaceutique de mèche avec les GAFAM, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Il faut pas. Néanmoins, alors le TDAH, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, est un syndrome plus qu'une maladie parce que c'est vraiment multifactoriel. Il y a probablement des causes génétiques, des causes environnementales qui sont intriquées, et c'est quelque chose qui va évoluer avec dans la vie de l'enfant, qui peut se résorber pratiquement à l'âge adulte avec la maturation justement du cerveau et de ses aires. Qui ne sont pas
assez fonctionnels. Qui donc se construisent seulement jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc voilà. Ils ont le temps de se réparer, si j'ose dire. Espérons pour eux.
Mais aussi avec l'interaction avec l'environnement. Donc il y a probablement une association à double sens entre l'exposition aux écrans et le TDAH. C'est que
TDAH, c'est les troubles.
Ces troubles-là. Mmh. L'exposition aux écrans favorise ces troubles attentionnels. Et les enfants qui ont des troubles attentionnels vont avoir tendance à avoir une appétence pour le contenu des écrans qui va les apaiser en stimulant les zones qui ne fonctionnent pas suffisamment chez eux.
Oui. Donc, comme ça que ça marche.
C'est comme ça qu'on suppose que ça marche, en tout cas aujourd'hui. Donc oui, on connaît mieux. Néanmoins, il y a aussi, comme c'est un syndrome et qui peut avoir beaucoup de causes, notamment environnementales, des causes de troubles attentionnels chez l'enfant, c'est la dette de sommeil. Donc il peut arriver, et c'est arrivé, je discute avec des collègues neuropédiatres, qu'un enfant arrive traité par Ritaline et qu'on découvre qu'en fait il est en dette chronique de sommeil parce qu'il regarde les écrans le soir, qu'il dort mal, etc., etc., et qu'il a du coup des symptômes d'hyperactivité. Il faut être prudent. Simplement, à la réponse chimique à un trouble du comportement ou un trouble attentionnel, ainsi bien sûr à la prudence. Mais c'est une évidence, mais
qui est bonne à rappeler. Dans cette émission, on a parlé de l'hyperstimulation numérique et de tous les mots MAUX qu'elle engendre.
Thomas, RS, Kenzo, Yamamoto, Cardin, Guerlain, Palma, Paco, Abad, Let's.
Merci Servan Mouton, merci Yves Citon. On aurait pu continuer des heures. On continuera d'ailleurs. Je pense qu'on reprendra ces sujets qui posent énormément de questions sur la société dans laquelle nous vivons. Donc merci beaucoup à tous les deux. C'est désormais le moment de Frédéric Worms. Voici sa chronique, Le pourquoi du comment.
Comment le sexisme est-il possible ? À chaque fois que nous entendons parler dans nos sociétés de ce que nous appelons aujourd'hui des violences sexistes ou sexuelles, nous avons un double sentiment de sidération, comme s'il y avait deux dimensions de notre être qui étaient violées à la fois, et j'emploie ce mot « violées » à dessein, car bien entendu le comble de ces violations, c'est le viol lui-même. Comment le sexisme est-il possible ? Nous avons deux indignations en effet. C'est d'abord la transgression de ce qu'il y a de plus profond peut-être dans nos relations corporelle, de ce qui peut nous procurer les plus grandes joies, mais dont on voit aussi que ça peut nous procurer les plus grandes souffrances. C'est la relation sexuelle, la relation amoureuse qui passe par la relation entre les corps, par cette source du plus grand désir et du plus grand plaisir qui est la sexualité elle-même. Mais il y a une deuxième violation dans cette violence même qu'est le viol dans la relation sexuelle. C'est évidemment la violation de la liberté et de l'égalité des êtres humains dans leur relation sexuelle elle-même. Ainsi, notre indignation devant le viol, devant cette violence dans l'acte sexuel lui-même, nous montre que la relation sexuelle entre les êtres humains est aussi une relation entre des êtres libres et égaux, et que la sexualité ne vient pas contredire, mais au contraire renforcer. Oui, une relation sexuelle heureuse est aussi une relation sexuelle juste, une relation qui passe par ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement, mais aussi qui dévoile jusque dans ses pulsions entre les corps, et même dans le jeu qu'elles font avec le pouvoir, jusque dans les jeux maîtrisés ou pas du sadisme et du masochisme dont Sartre avait à l'époque de L'être et le néant produit une théorie philosophique. Oui, jusque dans ces jeux avec le pouvoir, la relation sexuelle montre qu'elle est traversée par la liberté et l'égalité entre les êtres humains. Alors nous sommes deux fois scandalisés. Comment cette source de plaisir entre des êtres libres et égaux peut-elle donner lieu à une discrimination, à une réduction, à une relation de pouvoir, à une assignation aussi, à des normes préalables, à un mélange des genres où la dimension sexuelle devient sexiste et s'inscrit dans toutes les autres sphères de la société, le pouvoir économique, politique, culturel ou intellectuel même. Ce mélange des genres, cette invasion par la violence sexuelle dans tous les domaines est alors une transgression qui peut en effet miner toutes les relations sociales. Ainsi, on s'aperçoit que au contraire, arriver à faire de la sexualité une relation heureuse et juste est une condition de la vie humaine en général. Il faut arriver à concilier cette source puissante de plaisir, mais potentiellement de violence, cette source de relations interindividuelles heureuses, mais potentiellement aussi malheureuses, arriver à assumer ces risques profonds, de ce danger qui couve en elle et que la psychanalyse, mais aussi l'éthique et la politique doivent arriver à circonscrire. Il faut arriver donc à maîtriser cette part d'ombre, cette part d'effroi, cette part de danger, pour faire aussi que cette relation sexuelle heureuse et juste puisse traverser de façon positive tous les domaines de la société. On ne construira pas une société humaine sans lutter contre le sexisme, sans abolir pour autant, bien entendu, la sexualité.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions sont disponibles en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera. Elle a été préparée par toute l'équipe d'Avec Philosophie. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité !